Pour le regarder, il suffit de taper The Returned dans la barre de recherche de YouTube. Et puis sachez que cet entretien que vous venez d'entendre est disponible en version longue sur notre site. Rendez-vous sur le www.rfi.fr. RFI à Dakar et Saint-Louis, il est 6h30, 7h30 à Brazzaville. Édouard Dupénoat, reportage sur le campus de l'UCAD à la une de votre édition.
Avec ces étudiants qui jettent à la hâte quelques affaires dans des valises avant de quitter les nuages de lacrymogènes, vive tension hier encore entre étudiants sénégalais et forces de l'ordre. Un étudiant mort, dit une association de carabins, les étudiants en médecine. Et toujours la colère face au retard dans le paiement des bourses. Le jugement d'appel conforme à celui de première instance. Moussa Mara, ex-premier ministre du Mali, condamné à 2 ans de prison, dont 1 en ferme. C'est un message posté sur les réseaux sociaux qui lui vaut d'être coupable d'atteinte au crédit de l'État. Le Mali, mais pas uniquement, toute la grande zone géographique d'Afrique de l'Ouest qui comprend en fait les langues bambara. Charles Bailleul est mort, ce Français qui a rapidement préféré la langue d'Ousmane Diarra à celle de Victor Hugo. On lui doit une somme lexicographique inoubliable. Les partis bel et bien dissous au Burkina Faso, le Parlement de transition vote 2 lois dans ce sens. Explication à suivre.
Le dossier de ce journal, Edouard, l'Afrique du jeu vidéo se réapproprie ses œuvres spoliées.
Ça s'appelle Relooted, c'est 100% sud-africain. Ça sort normalement dans 8 heures sur la plateforme Steam. Léa Boutin-Rivière nous en parle dans une dizaine de minutes.
Ziguinchor, Thiès, Saint-Louis et bien sûr Dakar, la colère des étudiants SM dans les universités sénégalaises.
Avec en ligne de mire toujours ces bourses où s'accumulent les retards de paiement. Parti avant le week-end, la mobilisation était annoncée pour reprendre hier lundi et cela n'a pas manqué. Dès les premières heures d'ailleurs sur le campus de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. L'amicale de la faculté de médecine déplore la mort d'un étudiant en deuxième année. Un incendie signalé aussi dans une résidence universitaire. Et le reportage RFI sur place de Juliette Dubois.
Dès le matin, des véhicules blindés pénètrent dans le campus social. Dans le ciel, des traînées de fumée blanche de gaz lacrymogène. Sur des vidéos, on voit les couloirs des résidences universitaires complètement enfumés. Plusieurs étudiants sont blessés lors d'affrontements. À l'intérieur du campus, l'infirmerie est débordée. Chera Tabania, étudiant en médecine, participe à la prise en charge des blessés.
Il y a trop de blessés. D'autres qui ont des mains cassées et d'autres aussi à qui... on les a frappés dans les yeux, donc débordant quoi.
Face à la situation, de nombreux étudiants préfèrent quitter le campus, sac et valise à la main. Fatima Tadiop, étudiante en mathématiques, rentre chez elle à Thiès, les larmes aux yeux.
On rentre parce que là, la situation commence à dégénérer. On a fermé la restauration depuis 3 jours et aujourd'hui, on a bombardé avec des lacrymogènes. Moi, je suis asthmétique, je ne pouvais pas rester là-bas. C'est la première fois dans ma vie.
Au cœur de la crispation, le retard dans le versement de bourses. Pour protester, des étudiants avaient prévu d'organiser des journées sans ticket, c'est-à-dire sans payer les repas aux restaurants universitaires. Mais les forces de l'ordre sont intervenues. Ibrahim Hassen, étudiant en environnement, est déçu.
On ne comprend plus. Réclamer nos droits, c'est de percevoir nos bourses. C'est devenu une menace à notre sécurité. Le mouvement d'humeur des étudiants n'est pas une excuse pour les forces de défense et de sécurité de pénétrer le campus social.
La contestation ne se limite plus à Dakar. Après Saint-Louis et Thiès, ce lundi, l'université de Ziguinchor a annoncé à son tour la fermeture de ses restaurants. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
Le Sénégal avec ses vives réactions des associations de défense des droits de l'homme après une affaire qui fait la une de la presse. 12 personnes, dont un animateur télé et un chanteur qui ont été arrêtés ce week-end, poursuivis pour association de malfaiteurs. Acte contre nature, je cite, c'est un délit pénal dans le pays. Ils sont accusés d'avoir transmis volontairement le VIH. 12 mis en cause présentés à la justice hier. Une information judiciaire est ouverte. Mais bien souvent, ces accusations ne sont que des écrans de fumée, nous disent ce matin plusieurs militants pour les droits humains, juste pour faire peur aux minorités sexuelles. La peine de Moussa Mara confirmée en appel par la justice malienne. L'ancien Premier ministre écope de 2 ans de prison, dont un enferme, ainsi que 500 000 francs CFA d'amende pour atteinte au crédit de l'État et opposition à l'autorité légitime. Au mois de juillet dernier, l'ancien chef de gouvernement avait publié en ligne un message où il disait se battre par tous les moyens pour que le soleil succède à la nuit. Et la Cour d'appel confirme donc la sanction de première instance prononcée il y a 4 mois. Le collectif de ses avocats veut se pourvoir en cassation. En attendant, maître Mamadou Ismaïla Konaté fait part du sentiment que lui inspire ce jugement.
Un homme a été condamné, mais surtout un mot a été jugé. Un mot exprimé dans l'espace public, un mot relevant de l'opinion et du débat politique. Or, dans un état de droit, la liberté d'expression n'est pas une faveur accordée par le pouvoir. Elle est un droit fondamental. Elle protège les paroles qui dérangent autant que celles qui plaisent. Quand le droit pénal s'applique aux mots plutôt qu'aux actes, la frontière devient dangereusement floue entre la critique légitime et l'infraction. Et c'est alors toute la société qui apprend à se taire. Une justice équitable ne craint pas la parole, elle la protège. Elle accepte la contradiction, elle rappelle que le droit ne punit pas les opinions, car une démocratie qui condamne un mot aujourd'hui prend le risque demain de condamner le silence de tous.
Maître Mamadou Ismaïla Konaté, propos recueillis par David Baché. Plus de 12 ans après la mort de deux envoyés spéciaux de Radio France Internationale, une demande encore d'avancer si possible vers la vérité judiciaire. Le juge d'instruction antiterroriste qui enquête sur l'assassinat de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon demande une nouvelle déclassification de documents secrets défense, une requête envoyée en fait il y a un mois au ministère des Armées en France. Vous en lisez le détail sur RFI.fr.
L'avenir du Sahara occidental s'est-il écrit ces derniers jours en Espagne ?
Un retour à Madrid pour la suite de ce journal. Au surlendemain de cette réunion à l'ambassade américaine, avec des diplomates du Front Polisario, du Maroc, de l'Algérie et de la Mauritanie. On apprend également que le diplomate onusien Staffan de Mistura et que le représentant de Washington à l'ONU y était également. La diplomatie américaine qui a eu l'occasion de faire savoir que ce dossier bloqué depuis plusieurs décennies était désormais une priorité absolue. Qu'est-ce que ça veut dire, Ouda Ibrahim, et que peut-on attendre pour les prochains mois ?
Peu d'informations ont filtré sur le contenu de cette réunion, selon Lahbib Abdelhaï, qui dirige l'agence de presse sahraoui. Les parties sont tombées d'accord sur la formation d'un comité technique composé d'experts juridiques et d'hommes politiques internationaux pour discuter un accord cadre qui serait signé en mai prochain à Washington, indique cette source. Selon nos informations, les discussions ont porté sur des détails du plan marocain pour l'autodétermination du Sahara occidental, mais ce plan doit être encore amélioré. Composé à l'origine de 3 pages, puis de 40, des précisions sont demandées au Maroc sur plusieurs points de ce plan. L'Algérie oppose de la résistance au plan marocain, mais pour la politologue Khadija Mohsen Finan, les carottes sont cuites, c'est du maquillage sans plus. En octobre dernier, Massad Boulos a déclaré qu'il est capable de résoudre ce problème du Sahara occidental sous 60 jours. Washington applique une diplomatie progressive et calme d'un côté et des pressions de l'autre dans l'espoir d'avancer sur ce dossier.
Ouda Ibrahim à 7h37 à Madrid. Et 6h37 à Ouagadougou sur RFI toujours, le Parlement de la transition au Burkina Faso qui entérine sans opposition la fin des partis politiques. La junte militaire l'avait annoncé il y a une dizaine de jours, dissolution de ces formations. Leurs activités étaient suspendues de fait depuis plus de 3 ans, accusées d'avoir déchiré, miné le tissu social du Burkina et d'avoir ajouté du chaos à sa vie politique. Cette fois c'est fait, les parlementaires suppriment en fait 2 lois fondatrices de l'organisation de la vie publique. La transition parle d'une table rase. Magali Lagrange.
Le texte adopté par les parlementaires burkinabés entraîne l'abrogation de 2 précédents textes majeurs, la charte des partis politiques et la loi relative au financement des partis, des campagnes électorales et au statut de l'opposition politique. Une façon, affirme le ministre de l'administration territoriale, de mettre à plat tout le système partisan du pays. Émile Zerbo accuse le système des partis politiques d'avoir divisé les populations. Leurs activités étaient déjà suspendues depuis septembre 2022. De l'avis d'un analyste politique, cette suppression des partis est un recul pour le Burkina Faso où le jeu politique et les débats étaient une réalité, estime-t-il, après le mouvement populaire de 2014. C'est la fin de tout espoir pour la démocratie, poursuit-il, regrettant que les voix discordantes soient désormais écrasées dans le pays. Depuis la prise du pouvoir par le capitaine Ibrahim Traoré, les activités des organisations de la société civile sont suspendues. Acteurs de la société civile et journalistes critiques des actions du régime militaire rappellent encore cette analystes ont été enlevés et envoyés au front pour lutter contre les groupes terroristes.
Magali Lagrange, c'est un amoureux fou de la langue bambara qui s'éteint et qui laisse une somme colossale de travaux derrière lui. Charles Bailleul, prêtre catholique de son état, français d'origine, il avait 98 ans, mais il en a passé près de 40 au Mali, notamment à Faladje et à Kolokani. Toute sa vie, il a donc travaillé sur cette langue, ces langues bambara, particulièrement sa lexicographie, c'est-à-dire l'étude et la recherche des mots d'une langue donnée dans le but d'en constituer des recueils ou bien des dictionnaires. Mukhtar Traoré est doctorant lui-même en lexicographie bambara à l'Institut National des Langues et des Civilisations Orientales. C'est peu dire donc qu'il connaît le travail de Charles Bayeul.
Charles Bayeul, communément appelé Bablen Koulibaly par tout le Mali et toute la communauté bambara, laisse quand même un paquet, on va dire, de travaux réalisés parce qu'il a travaillé sur tout ce qui est lexicographie jusqu'à, on va dire, ces derniers jours. Il a derrière lu des livres, bien sûr, sur le bambara, la sagesse bambara et tout ce qui est la botanique aussi. Il a deux dictionnaires, un dictionnaire français bambara et bambara français qui a été réédité plusieurs fois. Moi, mon coup de cœur, c'est Proverbes et Sentences, surtout bambara, dont il a récolté plus de 4000 auprès des gens de Belédougou et qui est assez intéressant. Il y a un proverbe où il dit « Ni koko perena basa obedon » lorsque le mur se fissure, les margouillas pénètrent, pour dire que la solidarité, c'est déjà de s'accrocher les uns aux autres pour que l'ennemi ne puisse pas rentrer. Donc c'est mon coup de cœur surtout.
Mukhtar Traoré, doctorant en lexicographie bambara à l'INALCO à Paris.
Les Sud-Africains de Niamakop publient dans quelques heures leur jeu Riloutide et c'est le dossier de ce journal.
Pour l'instant, on n'en a qu'une bande-annonce et une démo jouable, alléchante, un side-scroller en 2D nerveux, rythmé, qui sera disponible en téléchargement dans 8 heures, dit la plateforme Steam. Le jeu nous plonge dans un futur proche, mais c'est peut-être en fait l'un de ses seuls emprunts à la science-fiction, puisque le scénario, lui, est entièrement vérifiable. Un peu partout dans le monde d'ailleurs, les œuvres d'art africaines se trouvent partout sur la planète, sauf en Afrique proprement dite, et Léa Boutin-Rivière, il s'agit donc d'y remédier.
Let's do this. Sur le papier, Riloutide reprend tous les grands classiques du jeu de braquage. Une équipe hétéroclite de voleurs, un peu de stratégie, beaucoup d'acrobatie et surtout le frisson du vol. Oui, mais. Est-ce vraiment du vol si on reprend ce qui a été volé? Cette question posée par l'un des personnages résume tout le positionnement du jeu. Ce n'est pas juste un braquage, c'est une mission de sauvetage, prévient la bande-annonce. Car il n'y a pas un, deux, ni même 10 objets à récupérer, mais bien 70 qui existent tous dans la vraie vie et dont l'histoire est détaillée par des fiches dans le jeu. On estime que 90 000 objets issus d'Afrique subsaharienne se trouvent dans des musées, rien qu'en France. C'est même plus de 85% du patrimoine africain qui se situe en dehors du continent au niveau mondial. De quoi faire un certain nombre d'épisodes de Riloutide.
Et il n'y a pas que le scénario qui soit africain. Les développeurs du jeu savent qu'ils mettent le pied dans une industrie quasi exclusivement blanche et occidentale. Et ils ont donc veillé aux moindres aspects de leur création, de la bande-son au chara-design, pour que l'Afrique se fraye enfin la place qui lui revient sur ce marché. Ben Myers est le cofondateur du studio Niamakop.
Dès le début, il était évident pour nous que les personnages devaient être noirs africains, car ils sont en quête de l'héritage de l'Afrique noire. On s'est aussi dit que c'était une très bonne opportunité de travailler sur le design de personnages venus de tout le continent. Par exemple, on a un personnage camerounais, qui a donc un accent africain francophone, ou encore un personnage venu d'Angola, qui lui a un accent anglais-africain. C'est très important pour nous de concevoir des personnages vraiment intéressants et profondément authentiques en fonction d'une région et d'une ethnicité bien spécifique. On a aussi fait attention à la musique. Délibérément, on a écarté les instruments occidentaux, ou les symphonies et les orchestres qu'on entend souvent dans le jeu vidéo. Là, il n'y a que des instruments africains traditionnels et des synthés modernes. L'idée, c'est que la culture africaine est magnifique, incroyable et profondément intéressante. La plupart des gens dans le monde ne la connaissent pas assez, et ce jeu est vraiment un point d'entrée pour apprendre à mieux connaître le continent et ses cultures.
Ben Myers, cofondateur du studio Niamakop, qui a développé et édité ce jeu Riloutide, disponible aujourd'hui pour un dossier de Léa Boutin-Rivière. Et puis le calendrier du réel percute celui du jeu vidéo, puisque l'on apprend que 116 artefacts de l'ancien royaume de Bénin vont être bientôt restitués au Nigeria. C'est une annonce du musée de l'archéologie et de l'anthropologie de l'université de Cambridge au Royaume-Uni, annonce formulée ce week-end, plusieurs années après une demande faite dans ce sens par les musées nigérians. RFI 7h44 à Paris.
Merci Edouard Dupénois, à tout à l'heure. À l'écoute d'RFI 6h44 en temps universel, on part à Dakar tout de suite pour la revue de presse. Bonjour Frédéric Couteau.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
À la une, la colère des étudiants sénégalais.
C'est le chaos à l'UQAD, s'exclame Wolf Quotidien. Le campus de l'université Cheikh Diop de Dakar a été le théâtre d'une violente intervention des forces de l'ordre, alors qu'aucune manifestation n'était en cours, pointe le quotidien dakarois. Hier matin, aux environs 9h, des policiers sont entrés au sein de l'université procédant à des tirs de gaz lacrymogène, malgré la décision des étudiants d'observer une journée morte, sans revendication ni mobilisation. Selon plusieurs témoignages, les étudiants n'ont opposé aucune résistance. Fatigués et éprouvés par une crise sociale qui dure depuis des jours, ils avaient choisi de ne pas manifester. Rappelons que les étudiants de l'UQAD protestent contre les retards de paiement de leur bourse, plongeant certains d'entre eux dans une précarité extrême.
Et la tension est montée d'un cran hier avec le décès d'un étudiant suite à l'intervention musclée des forces de l'ordre.
Oui, c'est ce que rapporte notamment Le Soleil. Abdoulaye Bass et son nom étaient inscrits en deuxième année de chirurgie dentaire. Selon le président de l'Amicale des étudiants en médecine, Atab Sagna, il a été battu par des policiers dans sa chambre avant d'être évacué vers le service médical du Centre des œuvres universitaires de Dakar où il a reçu les premiers soins. Malgré la prise en charge médicale, Abdoulaye Ba est donc décédé au sein du dit service.
Avalanche de réactions.
Le gouvernement s'est engagé à faire toute la lumière sur la mort de l'étudiant Abdoulaye Ba, note le site Sénéweb. L'opposition, elle, fustige les autorités, rapporte le même site Sénéweb. L'ancien maire de Dakar, Barthélémy Diaz, dénonce le silence et le mépris de l'État. Le secrétariat exécutif national de l'APR, l'Alliance pour la République, accuse le pouvoir en place d'avoir franchi une ligne rouge dans sa meurtrière saga et exige la démission du ministre de l'Intérieur. Réaction aussi de Khalifa Babacar Sall, président de Tawatchou Sénégal, toujours rapporté par Sénéweb. Les images de feu et de sang qui nous parviennent de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar sont le symptôme de l'échec d'un régime incapable d'honorer ses engagements et d'un État qui oppose la matraque à la légitime revendication. Après une troisième alternance démocratique au Sénégal, poursuit-il, jamais nous n'aurions pensé revivre de telles scènes.
Wakat Serra au Burkina Faso s'interroge.
Le gouvernement saura-t-il éteindre le feu en donnant satisfaction aux étudiants sans bourse et sans nourriture? Les dirigeants sénégalais vont-ils enfin comprendre que l'éducation et la recherche sont des piliers essentiels du développement? Déjà, l'université ne produit la plupart du temps que des chômeurs. Si en plus des perspectives étriquées que le creuset du savoir leur réserve, la vie doit y devenir un calvaire, il y a de quoi se révolter contre les pires conditions de vie et d'études.
À la une, toujours au Sénégal, il y a cette affaire Pape Cheikh Diallo et Djibi Dramé.
Oui, des noms d'un animateur de télévision et d'un chanteur arrêtés ce week-end avec 10 autres personnes. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs et actes contre nature, c'est-à-dire d'homosexualité, un délit pénal dans le pays, et accusés aussi d'avoir transmis volontairement le virus du sida. On en parle largement dans les journaux de RFI ce matin. Et puis il y a aussi le démantèlement de ce réseau pédocriminel en lien avec la France. C'est le quotidien Le Parisien qui a sorti l'affaire hier. 14 personnes ont été arrêtées vendredi à Dakar, soupçonnées d'avoir participé à un réseau pédocriminel présumé, orchestré et financé pendant près de 10 ans par un restaurateur de Beauvais de 72 ans. Le projet glaçant du cerveau présumé du réseau pédocriminel France-Sénégal, s'exclame le site Sénéplus, des écoles du sexe pour former de bons passifs. C'était l'obsession de Pierre R., acteur présumé de l'affaire. Une mécanique implacable sur 10 ans où l'argent servait à recruter des complices chargés de fournir de jeunes victimes, dont des talibés, de jeunes élèves d'écoles coraniques. Et en effet, précise Afrique.com, l'enquête sénégalaise trouve son origine dans l'arrestation en France en avril dernier de ce ressortissant français originaire de Picardie. Cet individu aurait entretenu des liens étroits avec plusieurs complices basés au Sénégal, des complices qui auraient été chargés de recruter de jeunes garçons, donc de filmer des actes sexuels et de transmettre les images à leurs contacts en France en échange de transferts d'argent.
Frédéric Couteau, vous revenez dans une demi-heure pour nous lire la presse internationale avec à la une Keir Starmer sur la sellette.
Oui, l'affaire Epstein n'en finit plus d'éclabousser les grandes semences. Keir Starmer, le Premier ministre britannique, est désormais dans une situation bien inconfortable après la démission de son chef de cabinet et de son directeur de la communication.
On en parle à 8h15.
RFI, toute l'actualité, Andréane Mélard.
Voilà, et le Premier ministre britannique, soutenu par plusieurs poids lourds de son gouvernement, a indiqué qu'il ne démissionnerait pas le dirigeant travailliste pointé du doigt pour avoir nommé en 2024 Peter Mandelson ambassadeur aux États-Unis alors qu'il savait qu'il avait été proche du pédocriminel Jeffrey Epstein. Au Mali, la Cour d'appel a confirmé hier la peine reçue par Moussa Mara, l'ancien Premier ministre. Il avait été condamné fin octobre à 2 ans de prison, dont un ferme, et à une amende de 500 000 francs CFA pour atteinte au crédit de l'État et opposition à l'autorité légitime. Ses avocats ont indiqué hier son intention de se pourvoir en cassation. Félix Tshisekedi était hier à Luanda, en Angola, où il a notamment rencontré son homologue. Il a été question de la situation dans l'est de la RDC, mais aussi de l'organisation du dialogue intercongolais. L'Angola doit engager des consultations avec toutes les parties concernées pour créer les conditions nécessaires à ce dialogue. Air Canada suspend ses vols à destination de Cuba, et cela en raison d'une pénurie continue de carburant sur l'île, conséquence de la fin de l'approvisionnement en pétrole par Caracas et des menaces américaines de frapper de droits de douane les pays vendant du pétrole à la Havane. Et puis Antonio Guterres, gravement préoccupé après l'annonce par Israël ce week-end de nouvelles mesures renforçant son contrôle de la Cisjordanie. On en reparle dans le prochain journal. À nouveau, des morts en mer ces derniers jours. Selon l'Organisation internationale des migrations, 53 personnes sont mortes ou portées disparues après le naufrage ce week-end de leur embarcation au large de la Libye. Les drames comme celui-là sont nombreux, et pour celles et ceux qui survivent à ces très dangereuses traversées et plus largement à tout un voyage qui les mène de leur pays d'origine, à Paris par exemple, le traumatisme à l'arrivée est bien présent. L'hôpital Avicenne en région parisienne reçoit des migrants africains atteints de graves troubles psychiques liés à leur parcours d'exil, et elle travaille au centre psychiatrique de cet hôpital. La psychologue clinicienne française Marie-Caroline Saglio-Yatsimirski est notre grande invitée Afrique ce matin. Elle répond à Sidi Yansané.
Bonjour Marie-Caroline Saglio-Yatsimirski.
Bonjour Sidi Yansané.
En 2018, vous sortiez un livre, La voix de ceux qui crient, aux éditions Albin Michel, qui résume une décennie de consultations que vous avez menées avec des patients demandeurs d'asile, sans papiers, réfugiés, qu'on qualifie de façon un peu rapide comme les migrants. Cette voix dans votre livre, que crie-t-elle exactement ?
Vous avez dit une chose importante, vous avez dit qu'on qualifie un peu rapidement de migrants, et on qualifie justement mal une population qu'on confond. Moi je m'occupe des personnes victimes de grandes violences, des viols, de la torture, des brutalités extrêmes. Et ces personnes arrivent dans un territoire où elles vont rencontrer souvent une violence, par exemple, institutionnelle et psychique, qui est celle, en France, de débarquer. Elles vont rencontrer l'ère du soupçon institutionnel. Et en fait, ce qu'on écoute, nous, c'est ce cri dû à une violence rencontrée au début du parcours, mais ensuite tout au long de la trajectoire migratoire. Et c'est avec ces personnes qu'on travaille comme clinicien.
Vous recevez beaucoup d'Africaines. Que vous racontent-ils en général ? Et notez-vous des particularités, des spécificités dans leur parcours comparé à des migrants venus d'hors d'Afrique ?
En fait, je crois qu'il y a une géographie de la violence et une géographie de la guerre. Et oui, même si la question, j'ai envie de dire, psychologique et psychiatrique du traumatisme, on retrouve toujours des invariants, qui sont ces manières de réagir à la violence psychiquement. Cette géographie de la guerre africaine, par exemple, et de la violence africaine, elle peut être tout à fait particulière. Alors oui, nous recevons beaucoup de personnes africaines, moitié hommes, moitié femmes. Il ne faut pas oublier que la migration, ça concerne pour moitié les femmes. Vous avez peut-être vu les derniers chiffres de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Sur les 10 premiers pays aujourd'hui qui ont donné des titres de séjour, il y en a 5 africains. Ça veut dire qu'en 2025, vous retrouvez la Guinée, vous retrouvez le Congo, RDC, la Somalie qui apparaît, vous trouvez l'Érythrée et le Soudan. Voilà, 5 pays majeurs aujourd'hui à des conflits. Il y a évidemment les violences patriarcales, les violences intrafamiliales. Il y a beaucoup de femmes qui fuient ces violences. On a des femmes qui viennent parce qu'elles ont fui la violence maritale, les questions d'excision que protège la France. Donc on retrouve bien sûr ces géographies, et puis on retrouve ensuite des particularités, j'ai envie de dire, culturelles. Moi, au départ, je suis anthropologue dans une partie de ma vie, et c'est vrai que la question, elle va se poser peut-être de manière un peu différente en fonction des lieux. Quand on a des personnes qui viennent d'Afghanistan ou des personnes qui viennent d'Asie du Sud, les problématiques vont évidemment apparaître de manière différente. Et on a une très grande partie de notre population qui vient d'Afrique, oui.
Est-ce que vous avez d'autres cas, autres que la violence ou quelque chose que l'on fuirait du fait que sa vie soit en danger directement ?
Tout à fait. Aussi, dans la migration, il ne faut jamais l'oublier, de migrations qui ne sont pas seulement des migrations dites forcées. Elle peut ne pas être traumatique, bien sûr, mais partir, et même partir à l'aventure, j'ai envie de dire un mot qu'on entend, eh bien, en fait, ils vont découvrir que la trajectoire et l'arrivée est bien plus violente que ce qu'on pensait. Par exemple, toute une population de relativement relativement jeunes, partis avec un élan et qui sont ensuite pris dans la violence de l'arrivée. Vous avez une population là qui arrive, qui est très vite mise en doute. Hein, pourquoi elle est là? Après tout, est-ce que ce n'est pas de la migration économique? Tout de suite, il y a cette question du soupçon dans la demande, dans la présence en France. Et puis de l'autre côté, tous les liens familiaux, personnels, ces loyautés qu'une personne qui part va avoir avec sa famille, avec sa communauté. Quand on part pour réussir. D'abord, on hypothèque beaucoup de choses. On ne voit plus sa famille pendant des années. On ne sait pas si on la reverra. Si on la revoit, il faut qu'on ait réussi avec un statut qui est supérieur à celui qu'on avait là-bas. Donc, on a beaucoup de jeunes, par exemple, qui sont partis, qui galèrent. Ça veut dire que l'expérience de la rue, elle existe pour beaucoup de personnes qui arrivent. Le temps de trouver un boulot, un petit boulot, souvent dégradant. Souvent, il y a la question du déclassement. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont là. Les diplômes, quelquefois, ne servent à rien. Ce problème de reconnaissance fait que la dignité, elle est très atteinte et que les personnes, donc, rencontrent, vont vouloir protéger aussi leur famille.
Il y a un terme que vous avez utilisé tout à l'heure, c'est le terme de l'aventure. Et effectivement, si on dit généralement en Occident, hein, disons ça comme ça, le qualificatif de migrant en Afrique, et notamment en Afrique de l'Ouest, on ne dit pas ce terme-là. On parle de gens qui partent à l'aventure, on parle d'aventuriers. Est-ce que vous voyez, vous aussi, des aventuriers, des aventurières, dans le sens de gens qui partent dans l'inconnu absolu et verront ce qui va leur arriver?
Là, il y a quelque chose, il y a une grande force hein, à continuer cette aventure, une projection vers le futur, un élan qui est souvent brisé par des obstacles, mais qui est très fort, oui, notamment chez des jeunes.
Merci pour votre témoignage, Marie-Caroline Saglio-Yatsimirski.
Merci beaucoup à vous, Sidi Hassané.
La psychologue clinicienne Marie-Caroline Saglio-Yatsimirski, entretien sur RFI avec Sidi Hassané. Maman, ce matin, vous nous parlez d'un phénomène politique très méconnu au Gondwana.
Oui, approchez, mesdames et messieurs, approchez et asseyez-vous bien confortablement parce que nous allons parler du mystère politique le plus fascinant de la très très démocratique République, la fatigue présidentielle. Attention, ne croyez pas que je veux gloser sur l'état de fatigue de notre leader bien-aimé chaque matin après sa séance de sport dans son gymnase privé attenant à son bureau niché tout là-haut dans les collines verdoyantes surplombant Gondwana City, notre belle capitale. Hein. Non, non, il ne s'agit pas de cette fatigue-là, pour le dire en des termes crus, président fondateur est fatigué du Gondwana. Non, petit, c'est de vous tous que je suis fatigué. J'en ai ras le bol des Gondwanais. Laissez-moi tranquille, un point, un trait. Ah, vous voyez, ça fait mal. Hein. Oui, vous avez bien entendu. C'est ça, la fatigue présidentielle. Président fondateur est fatigué de vous. Il était venu au pouvoir avec la fougue de la jeunesse il y a très très longtemps. Il s'est démultiplié aux quatre coins du pays pour nous, sans relâche et sans compter. Mais aujourd'hui, après tant d'efforts, président fondateur constate amèrement que rien ne bouge. Pire, tout s'est dégradé. C'est pour ça que, petit à petit, la fatigue présidentielle s'est installée au point qu'aujourd'hui, on a atteint un niveau de désintéressement étatique jamais vu. Président fondateur ne s'intéresse plus à l'État. Ben attends, il a déjà tout fait, tout donné. Hein. Il a dirigé, signé des décrets, nommé des ministres, fait des conseils des ministres interminables. Il a inauguré, coupé des rubans, fait des poses de première pierre. Il a serré des mains, fait des discours à la nation. Il a voyagé partout, fait le tour du monde 10 000 fois. Il a rencontré tous les dirigeants de tous les pays, etc. Maintenant, il est fatigué. Il regarde le Gondwana comme on regarde une série qu'on a déjà visionnée plusieurs fois. On connaît tout par cœur. Mais au Gondwana, comme partout dans l'univers, il y a une règle incontournable. La nature a horreur du vide. Comme dit la chanson, quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Ah, président fondateur est fatigué du pouvoir. Eh bien, quelqu'un a pris. Attention, je ne te parle pas d'un chef sergent ou caporal qui aurait fait irruption dans le palais présidentiel pour dire que la récréation est terminée. Non, non, non. Ce quelqu'un qui a pris ce que président fondateur a laissé, ce quelqu'un-là, il était déjà dans la place. C'est le cercle rapproché, le fameux entourage. Ces gens qui connaissent président fondateur mieux que lui-même. Quand le chef est désintéressé, eh ben l'entourage s'intéresse doublement. Papa au pays. Non, non, non. Ces gens s'intéressent à leur chaise, leur fauteuil, leur canapé. Ils savent que tant que président fondateur est dans la place, ben ils y seront aussi. Et donc, fatigués ou pas, ils vont tout faire pour que président fondateur reste dans son fauteuil, quitte à lui reprendre la télécommande des mains. Quelqu'un laisse, eh bien quelqu'un prend. À demain.
Merci Maman, et je vous dis à demain sur RFI, le journal, dans un peu plus d'une minute.
Vous
Vous avez une idée innovante pour un monde plus propre?
Un projet numérique qui améliore la gestion et la transformation des déchets, encourage une consommation responsable ou encore préserve les écosystèmes terrestres et marins de la pollution plastique en Afrique francophone?
Participez à la 10e édition du Challenge App Afrique avec RFI et France 24.
Tentez votre chance et bénéficiez d'une dotation financière pour le développement de votre projet.
Candidatez jusqu'au 28 février sur le site appafrique.rfi.fr.
appafrique.rfi.fr.
Priorité santé.
Chantal Laureau vous invite à poser vos questions sur le thème d'aujourd'hui.
Nous prenons chaque jour des milliers de décisions. Actes banals pour les uns, effort mental et facteurs de stress pour d'autres. Que révèle l'indécision chronique?
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Oula, 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 tropical. Salut, c'est Claude Issiard. Ça y est, les 10 finalistes du prix Découverte RFI 2026 sont connus. Jusqu'au 11 mars, c'est à vous de voter pour votre artiste préféré. Il et elle viennent des Comores, du Cameroun, du Sénégal, du Bénin, des deux Congos, de Madagascar. Et ce mardi 10 février, ils seront dans Couleur Tropicale.